gratitude. Merci de nous être si nombreux pour nous voir, Julien et moi. Et moment de gratitude pour les sponsors, pour les lieux qui sont magnifiques, pour cette ambiance en fait qui n'a pas pu se faire sans eux. Donc, ce que je vous invite à faire, vous êtes OK, c'est sentez-vous libre de ne pas le faire, mais ce que vous avez fait, c'est un maximum de bruit pour les remercier. Après ce petit moment de gratitude, c'est aussi ce petit moment pour vous souhaiter donc la bienvenue. Donc moi, je m'appelle Yad, donc c'est le prénom, Yad Rabbelun Salam. Je viens de Rennes et l'idée c'est que je suis fasciné moi par tout ce qui est rendre possible l'impossible. Donc c'est un peu cette citation de Saint-Exupéry qui est de dire ce qui compte après tout, c'est plutôt, c'est pas la destination, c'est le voyage, c'est le cheminement en fait qui compte. Voilà pour ma part.
Bonjour tout le monde, c'est Julien, je viens de Rennes, je fais du coaching agile et ce qui m'anime aujourd'hui, pourquoi je me suis levé pour venir aujourd'hui, c'est justement pour partager avec vous, essayer d'avoir des échanges, de partager, de rendre visible des choses, d'essayer d'augmenter la façon dont on perçoit les choses et d'avoir un meilleur discernement de ce qui peut se passer dans nos organisations. Voilà quelle est ma quête. Et avec Yads, on partage un centre d'intérêt commun qui est l'agilité. Vous êtes bien ici. Alors, c'est pas un Agile Tour, c'est le Printemps Agile. Vous partagez un petit peu ce centre d'intérêt pour l'agilité ?
Pour la première fois l'agilité.
Ok. Est-ce qu'on a des personnes qui sont expertes en agilité? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent en mode agile dans leur entreprise? Ouais, un petit peu. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec le monde de l'informatique? Oh. C'est une bonne question, ça. Et qu'est-ce que vous faites là? Justement, quels sont les centres d'intérêt? Qu'est-ce qui vous a amené à vous lever si tôt ce matin pour venir à cette conférence? Je suis curieux. Ben, c'est là, hein, le printemps agile.
En mode popcorn?
L'effervescence que ce genre d'événement m'apporte en fait, c'est pour les façons de m'organiser en fait personnellement dans le travail.
Ok, super. Quelqu'un d'autre?
Pour découvrir des nouvelles techniques de pouvoir récupérer ça et essayer de le mettre en place.
Ok, ça marche.
Étudiants et donc c'est dans le cadre de notre cursus que nous sommes présents.
Super.
Super.
J'avais envie de passer un bon moment de rencontrer des gens.
Super. Ok. Nous, vous avez compris qu'on était plutôt des experts de l'agilité. On vient vous parler d'un sujet qui s'appelle la QVT. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont du monde de la RH parmi nous? Ok. Donc nous, on n'est pas du tout des experts de ça. Hein. Mais enfin, c'est un peu l'enjeu de cette conférence, c'est justement de voir qu'on y a trouvé des résonances et d'essayer de voir un petit peu ce qu'on y voit. Et puis, donc on vous invitera évidemment à réagir à ce qu'on propose. Ok ? Eh bien, on est parti. Alors, cette conférence, comme je vous l'ai dit, c'est l'idée de faire des ponts entre ces deux mondes-là. Donc, ce qu'on ne va pas faire, c'est aller dans le détail de ce que c'est que l'agilité, comment ça va fonctionner. Par contre, ça nous paraissait important, en tout cas, moi, c'était important pour moi quand même de positionner quand même un petit peu l'agilité de manière agnostique, donc sans terme informatique. Donc, normalement, vous devriez comprendre tous les mots qui sont là. L'idée, c'est de se dire, voilà, derrière l'agilité, le centre d'intérêt qu'on en partage, il y a une philosophie de l'action, donc on fait quelque chose, il y a du faire derrière tout ça. C'est plutôt adapté à un contexte d'incertitude. Si vous pouvez tout deviner à l'avance, vous n'en avez pas forcément besoin. Par contre, si vous êtes dans un contexte d'incertitude, ça peut vous servir. Effectivement, le mode prédictif ne fonctionne plus quand il y a trop d'incertitudes. Et puis, trois ingrédients qui sont l'interaction les uns envers les autres. Il y a l'idée d'aller vers un but, donc de clarifier quel est le but et d'aller vers ce but-là. Avoir une stratégie de découverte, d'accord? Donc, on part. On a des moyens, on a des ressources, on est confiant, on sait à peu près où on va, mais on ne sait pas trop quel est le chemin qu'on va suivre. Et puis, ce mot-là qui ensemble, donc derrière tout ça, il y a aussi l'idée du collectif. C'est pas moi, j'y vais tout seul, puis je tire tout le monde. Non, c'est ensemble, on y va avec ce que chacun peut apporter au groupe. Donc ça, c'est une définition d'agilité.
Et donc, aujourd'hui, on s'est mis le défi avec Julien de faire un parallèle avec cette notion de qualité de vie, puisque quelque part, dans notre posture, dans notre travail, à un moment, on a soit subi, soit contribué à cette notion de conditions de travail, en fait. Donc, quelque part, ce sont des choses qui nous sont familières déjà, et on va retrouver cette notion de démarche collective qui nous a interpellés, de tiens, c'est aussi une quête de l'amélioration des conditions de travail. Donc, on est allé sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Comme nous ne sommes pas des experts du sujet, mais pour faire ce parallèle-là, donc on va pas rentrer dans tous les détails, on n'a pas la prétention de dire qu'on a la science infuse sur ni l'agilité ni les QVT, mais encore moins ici. Mais ce qu'on a trouvé en tout cas, c'est cette notion d'améliorer en vue de performer de manière globale, donc d'une certaine manière participer tous ensemble à quelque chose et venir expérimenter, essayer des nouvelles choses en fait pour cette condition de travail.
Je prends juste ma casquette de sécurité, parce que là t'es dans les câbles.
Merci. Une fois que ça s'est posé, tout au long de ces présentations qu'on aura, on a des marqueurs ici. Vous voyez sur le. Bon, ça ne marche pas sur la télé, mais je le mets en haut. Vous avez des marqueurs sur tout du long où on va dire, du coup, finalement, quels sont les thèmes, les périmètres d'action de la QVT. Donc, on va voir la santé au travail, donc tout ce qui touche au bien-être du salarié. L'égalité, préserver cette notion d'égalité pour voir que tout le monde ait la même chance. Cette notion de dialogue social et dialogue professionnel pour qu'il y ait une véritable de communication. Après, c'est l'accompagnement du développement du salarié, donc les compétences, le parcours de carrière, et enfin cette notion de projet d'entreprise qui est en lien direct avec le management. Et comme il y a management, il y a donc on parle de gestion, on parle d'organisation et de contenu, mais aussi d'exécution. Comme disait Julien tout à l'heure, l'idée c'est de faire en fait. Ici, on retrouve cette idée de faire dans ce vocabulaire de QVT.
Vous allez les retrouver, ces pastilles-là, tout au long. C'est des propositions, hein, comme on l'a dit, on n'est pas des experts du domaine, donc voilà en quoi nous ça fait écho avec nous. Et on est tout à fait à l'écoute d'autres propositions. Donc, regard croisé finalement entre enjeux RH et agilité. En tout cas, nous, dans notre monde à nous qui agile, on se rend bien compte que même avec les meilleures intentions du monde, des fois le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Évidemment, quand j'ai commencé à faire des projets en mode agile, ou quand j'ai commencé à accompagner des équipes qui voulaient mettre en place de l'agilité, il y avait des très bonnes intentions et des fois on a basculé dans des choses qui étaient qui étaient assez difficiles à vivre. Heureusement, la plupart du temps, on se rend compte qu'on arrive à trouver un équilibre finalement qui nous permet de continuer à avancer et de garder le cap justement en se questionnant. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu le retour d'expérience de ce que des ingrédients qui nous ont aidés quand on était agile et qui amenaient du confort de travail. Et puis essayer d'essayer de voir après est-ce que ça peut donner à l'échelle de l'organisation. Ok, c'est bon pour vous? C'est parti.
Ce qu'on vous propose là donc aujourd'hui, c'est une succession de trois itérations, d'accord, on est dans l'agilité, donc trois itérations. Donc comment on va se construire ces trois itérations? Ça va être d'accompagner une petite scénette qu'on va jouer, Julien et moi, puis on va vous apporter des retours d'expérience, on va peut-être vous interpeller par rapport à vos expériences à vous aussi, et enfin, on va essayer de voir ensemble le cheminement, une ouverture en fait sur qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous amène aujourd'hui. Et donc ça va, il y aura trois fois cette succession de scénettes, expérience et ouverture. Ok pour tout le monde? C'est parti, acte 1.
On se met dans les bonnes conditions.
Hey Julien, j'ai décroché le max de budget. On va pouvoir refaire notre base client. Tu sais cette bouse là, ce produit super important qui est tellement buggé partout que personne n'ose plus le toucher. Et ben tu sais quoi, on va mettre à jour la technologie et monter des versions, comme ça tout ira bien. Un joli projet de migration technique, quoi.
Non mais Yad, c'est pas un problème de technologie, tu sais bien, c'est jamais ça le problème. Il faut repenser la solution, il faut l'adapter à la situation d'aujourd'hui. Depuis 30 ans, la façon dont on traite les clients, c'est plus la même qu'aujourd'hui, quoi. Donc il faut repenser la solution.
De quoi tu me parles? C'est la technologie, je te dis, l'architecture, il n'est plus OK. On a le go de la direction, ce budget-là, on l'a, il faut qu'on le crame. Hein.
Ouais, mais attends, parce qu'en plus, au-delà de tout ça, de ton problème de migration, comme tu dis, on a un problème de culture dans l'équipe. L'ambiance, elle est vraiment terrible en ce moment. Ils ne se parlent même plus. Ils ont tellement plus confiance en eux qu'ils ne se parlent plus. Alors, si on prend en plus ce projet, avec un risque sur la donnée, qui est centrale pour toute l'organisation, pour l'entreprise, il faut qu'on s'assure, de la qualité. Attends, si je comprends bien, ça veut dire qu'on va tout repartir de zéro?
Exactement. Oui, on repart de zéro. Je te dis, on a le budget.
Et comment on s'assure que c'est OK à la fin? Comment on sait que nos clients ils sont contents, qu'on mesure la satisfaction,
etc.? T'inquiète, on va faire simple. Dans ce cas, on prend Isoprod. On fait exactement pareil. On reprend les specs, on reprend les mêmes fonctionnalités qui existent. On reprend les tests, on reprend tout. Tout est ISO, je te dis. C'est juste une migration technique.
Mais si tu fais du ISO, comment faire pour prendre en compte les nouveaux besoins?
Les clients, ils savent pas ce qu'ils veulent, de toute façon. Et puis, de toute façon, comme il y a le budget, on va mettre une formation, on va les former. On pourra leur mettre une formation. Et attends, je t'ai pas dit...
Tu veux dire de la pédagogie?
Attends. On n'a pas le temps de tergiverser sur ça. On a un mois pour le faire, je te l'ai pas dit. Parce qu'en fait, je leur ai dit, la deadline, c'est le 30 avril. Donc... Il faut qu'on justifie qu'on est des bonhommes, qu'on sommes de vrais professionnels.
Et t'as vendu ça? Ok. Alors.
Merci. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous avez des conseils à me donner à moi ou à Yad dans la suite de ce futur projet? Est-ce que ça parle un petit peu des choses, de situations que vous pouvez vivre en entreprise?
Une opposition entre l'aspect technique et l'aspect humain.
Moi, il y a un petit détail qui dit que j'ai pas aimé. C'est on a l'impression que c'est deux chefs qui parlent, puis ils ont, parce que juste parce, simplement, au début, j'ai dit, c'est des personnes de l'entreprise, et après, il y a eu, ouais, mais eux, il y a une mauvaise ambiance dans l'équipe, eux, il y avait eux.
Alors, je suis le responsable de l'équipe. Je suis le responsable de l'équipe.
Responsable du budget.
En fait, c'est pas les acteurs, c'est pas les gens qui vont faire, c'est les gens qui vont dire ouais vous qui agitent les marionnettes quoi. Voilà, quoi.
Merci.
Qu'on considère que le client ne sait pas ce qu'il veut. Ouais. Aussi.
Sans lui poser la question.
C'est bien de travailler avec lui. Pas juste jeter un truc et vas-y débrouille-toi.
Ok. Autre chose?
Puis l'importance de l'échéance qui a l'air démesurée. Mmh. Enfin, ça a plus de l'échéance que du budget. On a l'argent et de la date.
Ça fait une urgence. Pourquoi cette urgence, je ne sais pas.
Il y a aussi ce côté de. C'est une migration technique, mais on va faire la même chose.
Merci.
Merci.
En effet, ça fait écho du coup à cette notion de quête de sens. Et par rapport à notre expérience, à l'échelle de l'équipe, finalement, c'est vraiment cette notion de, à votre avis, c'est quoi une équipe ? À quoi sert une équipe ? C'est quoi la fonction primaire d'une équipe ?
La collaboration.
Collaboration.
Travailler ensemble.
Objectif, donc il y a ensemble, objectif commun, ça fait quoi autre chose ? Se soutenir. D'accord. Le dialogue, merci, en effet, ça, fait le lien avec, ça commence à faire le lien avec le texte. Et finalement, ici l'idée c'est vraiment cette notion de équipe, tribu. Donc dans la tribu, la fonction primaire, c'est prendre soin des uns des autres en fait. Et donc là, petit rappel, comme c'est la première fois que ça arrive, en fait ici, le petit marqueur là, que vous voyez là, c'est en effet cette notion de dialogue social et professionnel qu'on retrouve dans la QVT. C'est notre proposition de regard croisé en fait. Donc finalement, là, c'est appartenir à une équipe, c'est vraiment appartenir à une tribu où je veux donc prendre soin de l'autre, pas uniquement de moi. Pardon, en effet, cette notion que vous avez vue tout à l'heure de « attends, mais est-ce qu'on est ensemble ou est-ce que si on parle de deux groupes distincts ?» Et finalement, les conditions de travail dans l'agilité définissent en fait un certain cadre de travail, du coup cadre d'exécution, qui permet de sécuriser cette notion de qui fait quoi. Et qui fait quoi à tout moment. On a des rôles, on sait exactement donc à qui s'adresser, quelles sont les limites de chaque rôle. On a des rituels, des objectifs, l'organisation, des informations et aussi une manière de prise de décision. Donc finalement, on s'outille pour avoir cette notion d'appartenance, cultiver cette notion d'appartenance tout au long de l'exécution du travail.
Le besoin à l'échelle de l'équipe d'avoir un rôle, un cadre clair de travail.
À tout moment. À tout moment, on sait qui fait quoi et on sait pourquoi on est là. On sait qu'on va contribuer ensemble à quelque chose. Et on sait qu'on va contribuer ensemble, on en a parlé tout à l'heure, en fait, aux clients. On connaît nos clients, on partage en fait qui sont nos clients. Et l'idée, c'est avant tout, quels sont leurs problèmes, pourquoi on va essayer de développer ce qu'on a comme solution pour résoudre leurs problèmes, en quoi ça fait sens pour nous, en quoi est-ce que ça va leur apporter du changement, du bien-être, mais aussi nous, pendant l'exécution de tout ça, comment est-ce qu'on s'assure qu'en produisant, on a aussi un bien-être à venir là.
Vraiment à l'échelle de l'équipe, on a vraiment cette notion de on sait pourquoi on est là, on sait qui on sert et on sait ce qu'on est en train de faire. Donc c'est très clair à l'échelle de l'équipe dans cette dynamique.
Et donc là, moi et Julien, ce qu'on a remarqué dans notre expérience à nous, puisqu'on parle de retour d'expérience, c'est que finalement c'est ce mode produit qui permet en fait bienveillance, mais c'est cette notion de prendre soin des uns des autres. Parce que finalement, le mode produit, c'est cette notion de jeu infini où c'est pas juste un projet que tu commences, tu termines avec une deadline et puis tu files la patate chaude à quelqu'un d'autre. C'est le mode produit, c'est un jeu infini où tu prends soin du produit, tu prends soin de l'équipe qui a fait la production, tu assures la maintenance de ton produit, du cycle de vie de ton produit. Et donc, par rapport à tout ça, l'agilité permet de découper le travail en plusieurs étapes. Et donc il faut voir qu'on a notre objectif global et chaque étape qu'on fait finalement va nourrir cet objectif global ici. Donc il y a un cheminement qui est fait et pendant ce cheminement, l'idée c'est qu'en avançant, donc en avançant vers ce brouillard qui est là, on va découvrir le chemin. C'est pas tout tracé d'avance. On a un plan, on a des façons de faire et finalement on va retrouver aussi ce cadre de travail du coup qui est amené par l'agilité même dans ces différentes étapes. Il n'y a pas juste le plan global, le cadre de travail au début là, avec toute la transparence, mais elle est déclinée dans chaque étape où on est en train de dérouler, ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment.
Et l'équipe, elle se déplace ensemble tout au long de dans la direction globale.
Et c'est important cette notion de tout le monde rame en même temps dans le bateau. C'est-à-dire tout le monde doit jouer le jeu en fait, tout le monde doit ramer, puisque finalement, s'il n'y a que deux ou trois qui rament, on n'est plus dans ce temps-là. Quoi. Ce qui nous ramène à l'ouverture à l'échelle d'une organisation.
Tout à fait. Donc là, on a vu les petits ingrédients au niveau de l'équipe qui font que une équipe agile, ça fait sens pour elle de fonctionner. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisation ? Je savais que j'allais manger la commande. Donc, quand on se place à l'échelle de l'entreprise, c'est quoi que, quand on parle de la question du sens, c'est quoi, qu'est-ce qui vous vient en tête ?
Pourquoi l'entreprise ?
Ok. Des valeurs, tu disais.
La raison d'être.
C'est le marché, ça. En fait, c'est comment gagner de l'argent. Enfin, c'est
comment gagner de l'argent ? Comment payer les salaires à la fin du mois ? C'est ça. Effectivement, on voit déjà il y a ces deux côtés là. C'est effectivement la respiration, c'est l'argent, c'est comment on fait pour que l'entreprise reste vivante. Et puis il y a aussi à quoi sert l'entreprise. Et ces deux notions là sont liées étroitement. On peut pas avoir l'un sans l'autre en fait. Vous avez besoin des deux. Il y a eu tout un mouvement autour de la raison d'être. On a incité, je crois que c'est 2018, autoriser les entreprises à définir leur raison d'être. Donc les entreprises ont joué le jeu de la raison d'être. Et donc je vais vous proposer une raison d'être. Et ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer de voir dans quel domaine cette entreprise a peut-être petit à petit arrivé à trouver quelle est l'entreprise. Ok ? Alors, apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. D'après vous, de quel type d'entreprise on parle ? Bien ! Direct. Alors, justement, est-ce que vous étiez plusieurs à l'avoir ? Ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez fait directement penser à la SNCF ? Donc le marketing. Est-ce que vous reconnaissez la SNCF derrière cette raison d'être ? Est-ce que vous y retrouvez ? Vous, en tant que citoyen, ou en tant que... Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent à la SNCF ?
Non, mais quand t'habites en campagne,
ils sont moins, quand même. Bon, pour les urbains. J'ai gardé le train pour venir, pour faire un camp. Apparemment, il y a un direct qui prend 4 heures. Ou sinon, apparemment, c'est 5 heures. Bref. Ouais, donc, effectivement, donc vous voyez qu'une raison d'être, c'est un risque que prend l'entreprise hein, de partager une raison d'être. Et on voit bien qu'un effet que marketing n'est pas suffisant non plus. C'est quoi la question qui est derrière tout ça ?
À votre avis, on va un peu rester sur cette notion de raison d'être, du coup. À quoi sert une raison d'être ? À votre avis, à qui elle est destinée ? Quelles sont les caractéristiques principales et à quelles questions doit apporter de réponse une raison d'être ?
Motivation.
Orienter les choix. D'accord. Définir les valeurs, montrer les valeurs de l'entreprise, le socle de l'entreprise, ok. À qui elle est destinée ?
L'organisation du travail.
L'organisation du
travail,
ok. Donner du sens. D'accord. Et dans cette notion d'ensemble, à qui elle est destinée ? Elle est destinée à nous par rapport à notre condition de travail que vous avez dit ? Plus à l'interne ou à l'externe, puisqu'on a parlé de marketing ? Ok.
Je vous rassure, on n'a pas toutes les réponses non plus. En tout cas, moi, ce qu'on peut vous proposer, c'est l'histoire de la Favie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Vous pouvez lever la main si vous connaissez soit M. Zobrist, soit la Favie. C'est une histoire qui était très à la mode il y a 5-6 ans. Les entreprises libérées, ça parle peut-être à des gens. Ouais, ok. Donc lui, cette personne-là, alors c'est pas même le plus charmant du monde. Par contre, il a vécu une aventure extraordinaire au sein de la Favie. En même temps, il avait le droit à l'erreur sur ce qu'il allait faire. Donc, il a proposé finalement de travailler sur justement une autre façon de travailler, de faire en sorte que de redonner du pouvoir aux salariés, aux ouvriers, pour faire avancer l'entreprise. Il a affiché effectivement des valeurs. J'ai entendu valeurs tout à l'heure, des valeurs importantes. L'homme bon. Okay. Qui est contre ? Il y en a. Quoi que l'on fasse, on saura servir la mort du client interne ou externe. Au sens où, pour dire client interne, c'est par exemple le manager qui est en service. Les clients du manager, ce sont justement les personnes qui travaillent pour lui. Donc je me mets au service. Mais il n'a pas simplement dit des valeurs, il n'a pas mis ça, voilà, il y a le blason qui est là, il n'a pas simplement mis ça dans son entreprise en grand. Et non, il les a incarnés, il les a mis en œuvre, il a pris des décisions, il a orienté son entreprise pour que tout le monde vive avec ces valeurs-là. Alors forcément, quand vous avez quelque part, vous mettez en place des valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs qui sont partagées par toutes les personnes de l'entreprise, ça crée des frictions. Et il a donné l'opportunité aux gens soit de rester parce qu'ils adhèrent à cette valeur-là, soit de partir parce qu'ils n'y adhèrent pas. Donc c'est vraiment cette notion-là importante, c'est que si vous prenez le risque d'afficher dans un endroit des valeurs, faites en sorte que les personnes qui ne s'y reconnaissent pas puissent aussi évoluer vers d'autres activités. Parce que vous allez effectivement tirer des personnes, mais vous allez aussi rentrer en contradiction avec des valeurs personnelles de certaines personnes. Et puis pour revenir à la raison d'être, je l'ai caché ici, parce que comme on dit les choses comme ça, je l'ai caché là. En fait, la raison d'être de l'entreprise, c'est donc quelque chose d'interne. C'est on veut maintenir, on est au fin fond de Picardie, on a une entreprise et on veut maintenir un bassin d'emploi ici, dans notre lieu, pour pouvoir bosser près de chez nous. C'est ça qui a uni les salariés, c'est pas sortir une meilleure boîte de vitesse. Ça, c'est le résultat à la fin. Effectivement, on produit des super boîtes de vitesse à un prix différent de toute concurrence. Par contre, ce qui nous anime, ce qui nous fait nous voir matin, c'est à chaque fois l'idée qu'on va maintenir de l'emploi pour nous, pour l'école, pour nos gamins. Donc ça, c'est au niveau de l'entreprise. Et on va retrouver la même dualité finalement au niveau de la personne. Pourquoi moi, je me lève le matin pour aller travailler? Pourquoi vous vous levez le matin pour aller travailler? Alors sur l'arbre, je reprends vous pouvez retrouver la vidéo de André Comte-Sponville qui présente un peu plus longuement cette idée-là. L'idée, c'est que tous les matins, si on est assez franc envers soi-même, tous les matins, on vient travailler justement pour subvenir à nos besoins et gagner de l'argent, tout simplement. Okay, on a tous cette force-là qui tous les matins nous dit si je veux pouvoir faire des choses à côté, si je veux pouvoir payer des études à mes enfants, si je veux, eh bien alors je vais prendre un travail et ce travail va me donner de la rémunération. Donc tous les matins, je vais me lever pour ça. La deuxième question, c'est ça qui est assez intéressant, c'est où est-ce que je passe ma journée? Est-ce que je la passe ici à faire des choses qui me plaisent, avec des personnes qui me plaisent dans un lieu qui me plaît? Je pense que je ne me serais pas levé à 5h30 ce matin si je n'avais pas cette motivation-là pour être là parmi vous aujourd'hui. Ou au contraire, est-ce que je trouve aucun sens dans mon travail, je classe les trombones de la bonne couleur dans la bonne boîte, etc. Et je m'ennuie toute la journée. Donc il y a un choix à cet endroit-là. En tout cas, il y a deux éléments qui sont intéressants à ce niveau-là. C'est de savoir qu'il y a ces deux forces-là. À la fois, je viens pour chercher quelque chose qui me manque, à savoir les moyens de vivre. Et puis après, je viens chercher, en fonction du choix que je vais avoir à faire, à quel endroit je vais passer du temps. Donc on va garder ces deux notions-là un petit peu en tête. Et puis, on est vraiment sur la question du sens. Il y a quelque chose, l'agilité, c'est quelque chose qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Et qui peut être un peu vidé de son sens, à force d'être utilisé de plus ou moins bonne façon, on tombe dans le cliché, et l'agilité ne veut plus dire forcément quelque chose.
Et on s'est rendu compte, quand on a discuté avec d'autres collègues, en fait, qu'on retrouve cette notion de cliché dans la QVT, au sens où la QVT, c'est ce truc de RH, et ce qu'on a mis dans le pitch, en fait, finalement, qui ne nous parle plus, alors que c'est lié à notre quotidien, c'est lié à pourquoi on vient là, finalement.
Et d'ailleurs, la QVT, c'était le terme au départ sur qualité de vie au travail. On est venu rajouter, repréciser les choses, reclarifier. C'est devenu la QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Justement parce que y a eu tout un engouement sur on va mettre des baby-food dans les entreprises, le café va être gratuit, on va offrir des services. C'est pas ça derrière ce qu'on cherche à avoir. Et ça a été clarifié justement. C'est les conditions de travail, le contenu du travail, comment on fait pour que les salariés soient à nouveau acteurs de leurs conditions de travail et soient en capacité d'apporter leur pierre à l'édifice. Donc, j'en termine là-dessus. Quand on élargit soit à l'entreprise, soit à l'individu, on se rend compte finalement qu'on a ces deux forces-là. Le pourquoi je viens travailler, où je passe ma journée, que du coup la situation elle est assez singulière, parce que si on parle du travail dans l'entreprise, il y a certains éléments qui se mettent en place. Si je suis dans la famille, c'est autre chose. Hein, si on parle des tâches familiales, s'occuper des enfants, le ménage, etc., c'est aussi un travail. L'associatif, le bénévolat, tout ça, ce sont des éléments qui apportent un contexte différent. Si je suis bénévole quelque part, j'y suis par une motivation qui est tout à fait personnelle. Et si on vient m'imposer un cadre de travail égal à un cadre de travail directif quand je suis dans une action de bénévolat, il y a des chances que l'énergie que je mette là, je vais la mettre à l'heure. Donc finalement, il y a un contrat, qu'il soit moral ou un CDI entre une entreprise et un salarié. Il y a un contrat qui définit, moi je suis d'accord pour accepter ces conditions de travail, parce que ça correspond soit à mes valeurs, soit ça me permet d'exprimer mes valeurs autre part. Donc ce contrat, il est clair au départ. Et évidemment, avec le temps, les choses évoluent. Et donc, c'est ça qui va être compliqué, de comment repenser régulièrement avec l'entreprise et avec soi ce qui convient aux nouvelles conditions qui vont être les nôtres.
OK, pour vous, vous êtes endormis? Je pense que vous êtes tous endormis, là. Je propose qu'on passe à la prochaine scénette, là, du coup on va parler de changement, donc cette notion de l'intensité du changement, il n'a pas tant évolué que ça. Par contre, la fréquence, actuellement en 2023, il y a beaucoup plus de changements auxquels on devra faire face, nous déjà, puis au sens de l'entreprise, sachant que le changement c'est le seul truc éternel. Donc on va jouer une scénette là. On est à la fin d'une itération, d'accord.
On se retrouve avec l'équipe. Yad vous a dit, on fait des itérations. On est presque à la fin de l'itération. Dans 2 jours, on fait la démonstration au client. Donc tout doit être prêt. Et donc là, c'est le matin. Et l'équipe essaye de voir comment elle va s'organiser pour que la démo soit la meilleure possible.
Bonjour. Bienvenue à cette mêlée quotidienne. Julien a insisté de venir en fait parce qu'apparemment il y a une super nouvelle à partager. Julien ?
Oui, merci, désolé. Enfin, je vais pas être très long, je viens pas déjà à toutes les réunions quotidiennes. Là, je sais pas, enfin, bref. J'ai déjà une autre réunion qui a commencé d'ailleurs. Donc écoutez bien ce que j'ai à vous dire, c'est important. Alors j'ai vu les autres managers, hein, et il faut de toute urgence qu'on ajoute de nouveaux indicateurs business à l'application. D'accord ? C'est important, il faut prendre en compte. Il faut les intégrer, alors le plus tôt possible, la prochaine release, voire même tout de suite, ce serait parfait.
Attends, on a déjà notre objectif de livraison là. Les contours de la prochaine itération ont été définis, ils sont prévus, on risque de compromettre même la mise en prod si on commence à changer ça là maintenant.
Ouais, je comprends, c'est un peu juste, d'accord, mais c'est un tout petit indicateur, c'est un truc un petit peu plus pour vous, c'est deux fois rien.
Mais là, on est en train de changer à la dernière minute, j'ai l'impression. Je comprends. Il faut regarder de près. Là, tout est stabilisé. On commence à finir. On s'est occupé pendant 2 mois. Sinon, on va passer notre temps à du coq à l'âne, tout chambouler. On ne va pas finir nos tests. On ne consolidera jamais rien sur notre produit si on commence comme ça à faire tout à la dernière minute, non ?
Ah, dernière minute, j'ai pas dit ça. Tu vois, c'est plus pour montrer que... qu'on s'intéresse aux gens, qu'on est capable d'être flexible, d'absorber la charge, quoi, d'être réactif, de sortir de sa zone de confort.
En plus, quand tu regardes bien ce que tu me proposes, là, ça n'a aucune valeur pour les clients. Je veux dire, ça ne répond pas à leur problématique.
Tu sais, Yads, y a pas que les clients dans la vie. Hein. Y a aussi la politique, le business, ça compte aussi, tout ça, tu vois, ta carrière. Hein. On a besoin de ces indicateurs-là, vite fait. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Fais pas cette tête-là, on est agile ou pas?
Ça fait écho ? Ou est-ce que on est perché ? On est face à quel risque là, d'après vous? Et si vous avez des conseils à nous donner, ce serait quoi? Puisque j'ai l'impression que c'est connecté à une réalité de vie, du coup. Un produit qui ne correspond pas vraiment aux besoins des équipes.
Clarifier l'objectif.
Il y a toujours un problème face au changement, c'est que, en fait, on se dit toujours, est-ce qu'on va faire un nouveau truc, on va partir dans une usine à gaz, et qu'on va dire, ouais, on veut changer tout ça, puis les autres, écoute, on a déjà assez de boulot, donc l'important, c'est qu'on arrive au résultat, que ce soit fait, et on a marre de trimer toujours derrière. Donc, alors, soit on ne fait jamais rien, soit on va toujours faire des trucs nouveaux qui terminent jamais. En fait, ce qui est important, c'est de trouver un consensus, et c'est pas facile.
Merci.
Et moi, dans les choses qui m'ont vraiment dérangée dès le départ, c'est ce côté, entre guillemets, donc chef d'équipe, toujours, hein, qui ne participe pas, du coup, au travail d'équipe, qui vient exceptionnellement, alors qu'il a autre chose à faire, qui est pressé, qui, du coup, n'a pas le temps de discuter, en fait. Et c'est
sûr. Ça ressemble pas au monde du travail.
Ah si, complètement. Mais ça fait partie, du coup, je pense, dans la gestion de projet, de la problématique. Moi, c'est en tout cas ce que j'essaye de faire dans ces circonstances-là, dans l'entreprise où je travaille, c'est de dire aux supérieurs hiérarchiques par rapport aux responsables de groupe, s'il y a quelque chose, de venir m'en parler avant. Et c'est la personne qui coordonne le groupe qui transmet l'information. Et en fait, dans ce cas-là, je trouve que ça passe, entre guillemets, mieux. Ça permet aussi d'avoir une première discussion pour identifier ce côté de... voilà, l'objectif qu'on a donné pour le client, c'est celui-ci. Est-ce que c'est vraiment important? Pour qui est-ce que c'est important? Et ensuite, de le retravailler dans l'équipe en disant, oui, effectivement, voilà, c'est un truc qui vient d'au-dessus. C'est pas pour le client, c'est pour la boîte. Et du coup, de bien comprendre, en fait, justement, le tenant et l'aboutissant de ce changement de décision. Parce que même moi, hein, dans votre scénette, ce qui m'a questionné, c'est de dire, mais en fait, pourquoi je sens cette tension, finalement? Parce que, oui, c'est un changement, mais des changements, il y en a partout. Mmh. Et il est bon potentiellement pour l'entreprise, puisqu'il a été décidé par les dirigeants, même si l'un n'est pas bon. mais effectivement, c'est ce côté de... Pour moi, c'est plus une question de méthode que de problématique d'arrivée du changement.
Alors, creusons cette notion de méthode. Alors, pour prévenir, c'est la première fois qu'on le joue. Donc là, au niveau du temps, je pense qu'on explose tout là. On est bon? Je ne sais pas. Je rebondis sur cette notion d'effectivement organisation du travail, méthode finalement, donc, parce qu'on parle de méthode agile aussi quelque part. Donc finalement, quelque part, on se rend compte que le manager, il a, par rapport à notre expérience, son rôle à jouer. Il prépondérant dans cette notion d'équipe. Et finalement, la méthode, comment on s'organise, c'est soit du coup en cycle, d'accord, donc avec un démarrage et une fin qui est bien défini, soit on est en mode flux tendu, et dans ce cas-là, on est en mode flux. L'idée ici, c'est de suivre une cadence. Et donc, ce qu'on observe, c'est que la méthode agile, du moins, permet de définir un objectif initial. Donc quand on est en mode cycle, on s'accorde sur quels sont les objectifs, et s'il y a des changements qui arrivent, on regarde tous ensemble, est-ce que ça sert cet objectif, et du coup l'idée, c'est on va vers cet objectif, ou est-ce que ça le dessert. Le cadre de travail étant défini, si on est en mode flux par exemple, là l'idée, c'est on ne peut pas tout planifier à l'avance, mais ce qu'on peut maîtriser, c'est le travail en cours. Donc on va essayer de contraindre le travail en cours, histoire de se dire on sort que ce qu'on est capable de sortir, en fait. Et l'idée, c'est d'aller pousser, sortir le maximum de trucs, bien sûr, mais de finir. Ce qui fait que finir pour permettre à d'autres items de rentrer dans la boucle, en fait. Et après, par rapport au mode flux, ça assure, ça sécurise, en fait, cette notion de, à la fin de l'itération, on se fixe un temps, on va faire une démo, on va sécuriser, on va fixer, on va présenter le résultat de l'étape, en fait. D'accord, et étape par étape, on va finir par y arriver.
Ce qu'on essaie de montrer là, c'est que l'équipe, elle a choisi son cadre de travail, elle a défini ses règles du jeu. La tension, elle naît de quoi? C'est qu'on ne respecte plus les règles du jeu. Alors, on a choisi des règles comme celle-ci, ou comme celle-là, ou comme celle que vous avez. Si quelqu'un intervient en dehors de son rôle, il ne respecte pas les règles du jeu, forcément, il y a une tension qui va apparaître.
Donc là, revenir à cette notion d'objectif, vision globale, en fait, dont on a dit tout à l'heure, comme quoi bah, finalement, on est garant d'aller vers ramer tous ensemble vers cet objectif. Et là, l'idée, on revient là-dessus, de se dire, voilà, j'ai envie de me faire plaisir aussi dans mon travail, mais est-ce que ça sert l'objectif global ? Si ça sert l'objectif global, alors go. Ce changement qui arrive, en fait, est-ce que ça sert l'objectif global ? Alors go. Par contre, si moi, en effet, en tant que designer, je prends quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, mais c'est juste pour me faire plaisir, moi, en tant que designer, ben, on sent que ça va être du travail inutile, ça va créer des frustrations, ça va créer des tensions pour dire, mais non, mais ça ne sert pas à l'objectif, etc. Donc, pour aplanir tout ça, on va vraiment voir c'est quoi le problème et s'aligner, alors pas à juste l'équipe de réalisation, mais à tous les étages, en fait. C'est-à-dire qu'on a un objectif qui est défini, qui est repris dans l'étape. À tous les niveaux, on va servir cet objectif d'entreprise. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que il y a une gestion d'énergie aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est pas la même énergie qui se met en place au tout début ou au tout début, s'il y a du changement, ben on peut l'accepter un peu plus facilement. C'est-à-dire que là, on est en phase de remue-ménage, par exemple, et ben on peut avoir des idées qui peuvent aller à l'encontre de l'objectif, mais qui peuvent ouvrir des portes. Par contre, une fois qu'on arrive à la phase d'atterrissage, et ben là, l'idée, c'est plutôt de consolider, c'est l'idée de sécuriser. Donc là, les changements qui sont trop disruptifs, ben finalement, on va essayer de les écarter ou de laisser, les remettre dans la bannette pour la prochaine itération, la prochaine étape. Mais pour cette étape-là, l'idée, c'est qu'on va préserver l'énergie de tout le monde, puisqu'on est en phase d'atterrissage. L'idée, c'est on va faire une démo, puis on va sortir on va sortir la démo en production. Et donc, l'idée, c'est on suit le plan qui est défini. On avait déjà une stratégie et on se contente de la suivre à ce moment-là.
Donc, si on prend la peine de se mettre des règles du jeu, on essaie de la respecter quand le jeu a commencé. Je reviens un petit peu sur quand on ouvre à l'échelle de l'organisation, c'est voilà, cette idée de quelles sont les activités que je fais tous les jours quand je suis au travail, quelles sont les personnes avec lesquelles je travaille, est-ce que je m'entends bien avec elles et du lieu dans lequel je me trouve. L'entreprise, elle va proposer une culture, si elle prend ce risque-là, de la raison d'être, de la culture, etc. Mais elle ne va pas choisir une culture au hasard. Elle va dire, tiens, hop, on va faire de l'agilité parce que je suis venu au printemps agile et que j'ai trouvé ça cool. Non, elle va choisir une culture qui est à la fois adaptée à ses enjeux stratégiques. Qu'est-ce qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs? Qu'est-ce qui va pouvoir lui permettre de respirer, de gagner de l'argent? Et puis aussi, elle va faire en sorte que cette culture, elle corresponde un minimum aux personnes qui sont présentes, qui habitent son entreprise. Si je choisis une culture qui est complètement orthogonale aux personnes qui sont dans mon entreprise, comment vous voulez qu'il y ait adhésion et que ça puisse vivre? Donc il y a effectivement cette double contrainte à la fois de trouver une culture qui est adaptée à nos enjeux et une culture qui suscitera l'adhésion des personnes qui vivent dans l'entreprise.
Ce qu'on remarque donc, c'est que la culture va tout de suite qui est mise par les managers et les leaders, c'est cette culture-là qui va définir de facto l'ambiance et les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Ça correspond à une culture, c'est une culture de d'apprentissage collectif, par exemple, bah on sait à peu près à quoi s'attendre. Si c'est une culture assez hiérarchique, verticale, bah on sait à peu près à quoi s'attendre, on saura s'adapter, mais on se rend compte que c'est cette culture qui définit les conditions de travail.
Voilà. Si je reprends l'exemple de mon association tout à l'heure, voilà, le président de l'association change. C'est un ancien directeur financier qui prend l'association parce que ça a toujours été son plaisir. Sauf qu'il arrive avec toute sa culture de directeur financier dans une culture associative qui ne correspond plus du tout à l'entreprise. Je vous laisse imaginer quels dégâts il va pouvoir faire sur toute la motivation interne des personnes qui font vivre cette association. Ça ne ressemble pas du tout à une situation vécue. Autre point intéressant aussi au niveau de l'entreprise, c'est qu'on disait le changement il est de plus en plus fréquent. Quelque part, finalement, c'est l'adaptation qui devient la norme. L'organisation, elle est là aussi pour justement répondre à ça. Nous, on a besoin de stabilité de temps en temps. C'est le printemps agile. D'accord ? Avant le printemps, il y a quoi ? L'hiver, il se passe quoi ? Le repos végétatif. Vos organisations, elles ont aussi besoin de ce temps-là, de calme, où on fait, effectivement, on suit les procédures qu'on a mises en place, on bénéficie de tout le travail qu'on a fait. Et puis après, quand on se sera ressourcé, quand on sera à nouveau en capacité, ben on va faire émerger de nouvelles pratiques, on va pouvoir expérimenter de nouvelles choses. Mais d'abord, on prend le temps de récolter à la fin de l'été, On prend l'hiver pour se reposer et puis bénéficier du travail qui était fait, et puis on repart ensuite. Est-ce que vous avez ces temps-là dans vos entreprises, ces temps de respiration? De moins en moins, généralement. C'est la réponse que j'ai quand je présente ça. Exactement. En fait, on sème, et on ne prend jamais le temps ni de récolter, ni d'arroser. Merci. Allez, on a quand même le temps de parler de management. Moi, je ne voulais pas. Hein.
Salut.
Salut.
Alors ?
Je retrouve mon texte.
Changement.
Alors,
ça s'est bien passé ta formation sur les risques psychosociaux ?
Sur les RPS. Hein.
Les RPS, oui.
Attends, parce qu'on dit RPS quand on fait la formation. Ça, les gens ne comprennent pas. Oui, j'ai vu ça, c'est impressionnant. Hein. C'est, tous ces effets néfastes qui peuvent affecter nos équipes, pardon, c'est troublant.
Ah, super, c'est tombé en parlant d'équipe. Je voudrais te partager, il y a un risque de burn-out là. Notre experte réseau Sonia. Elle est super impliquée sur nos projets, voire trop.
C'est top ça.
Non, mais voire trop. Je pense, j'ai peur qu'elle soit submergée ou qu'elle se fasse dépasser par tous ces sujets sans arriver un moment à demander de l'aide.
Mmh. Ok. Bah, c'est vrai que suite à ma formation, j'ai été frappé quand même par les mécanismes du burn-out. C'est quelque chose dont on entend partout parler, réussir son burn-out. En fait, c'est quand même quelque chose d'assez flippant hein, quand tu regardes de près. Hein. Je t'ai fait rigoler, mais c'est flippant. Hein. On voit rien au début. C'est un peu comme. C'est invisible. Et d'un coup, ça se déclenche. Paf, d'un coup, terminé. Comme si la personne, elle s'était consumée de l'intérieur. C'est difficile hein, de percevoir. Et pourtant, les causes, elles sont multiples. Hein. Il y a toute une liste de causes. C'est impressionnant.
Ah ouais, quand même. Bah, il faut qu'on agisse alors.
Tu veux dire. Agir. Ouais, bah c'est vrai. Sonia, c'est ça dont tu veux me parler ?
Bah oui, on fait quoi de Sonia ?
Bah oui, c'est vrai qu'en plus, on se rend bien compte que les personnes les plus exposées, ce sont les femmes, les jeunes et les managers. Si tu rajoutes à ça l'effet travail à la maison, on est mal barré. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de la charge mentale de Sonia ?
J'ai trouvé. J'ai le trajet là en train pour rentrer. J'ai pris mon budget, j'ai tout regardé, j'ai regardé mon fichier Excel et regarde, voilà ce que j'ai prévu. Alors, d'après ce que j'ai vu dans la formation, on va lancer par anticipation la pré-embauche de 2 personnes, d'accord, pour renforcer la force de travail. Comme ça limite le risque, tu vois. Ensuite, toi, tu vas suivre une formation, si, une formation gestion des conflits. Comme ça, si ça chauffe, tu sauras comment réagir. Super, ça, bonne idée. Hein. Et puis, attends, j'ai rajouté aussi, je me suis dit que j'avais un peu minimisé les risques. Du coup, j'ai rajouté 10% de provision pour risque, pour les absences, les congés maladie, tout ça, tout ça. On n'a pas le droit d'applaudissements.
On s'était dit la chute sera sec, mais est-ce que ça interpelle ? Est-ce que ça interpelle un minimum ? Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve ? Alors qu'est-ce qu'on retrouve qui est dérangeant ?
Le déni.
Le déni ?
La qualité de la formation.
D'accord.
La formation PS. La prévention aussi, on n'est pas forcément dans la prévention.
En effet, on ne parle pas du tout de Sonia, on parle d'autre chose. Hein.
Et on ne parle pas non plus à Sonia.
On ne parle pas à Sonia.
Décision sans la personne.
Une dernière chose.
Ça sent la réussite. Le recrutement comme solution plutôt que l'organisation.
Par rapport à notre expérience, c'est en effet ça. Je vous disais tout à l'heure, le manager a son rôle, mais a son poids aussi. Et le Scrum Master incarne aussi cette notion de management. Donc, le Scrum Master, c'est la personne facilitatrice au sein de l'équipe. En fait, elle incarne finalement cette notion de management.
Je te coupe juste
ouais.
Pour dire.
Le
manager, enfin, le Scrum Master, c'est celui qui va porter le management au sein de l'équipe.
Et en fait, effectivement, il n'a pas de lien hiérarchique avec les personnes. Par contre, il se retrouve à l'intersection entre ce que demande l'entreprise et ce que veulent les personnes. Et du coup, c'est lui qui se retrouve dans cette situation un peu particulière et à devoir gérer ça. Donc, c'est le Scrum Master ici, c'est le manager aussi à d'autres niveaux.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, la personne responsable de l'équipe qui, quelque part, on le retrouve là. Donc, on avait le cadre de travail, mais sur ce cadre de travail, il y a des personnes qui sont garantes de ça, de cet équilibre, finalement, entre l'individu et le collectif. Rapidement, l'objectif, en effet, c'est de s'aligner avec ce pourquoi on est là, d'accord ? Mais il y a aussi cette notion de le manager, est-ce qu'il préserve finalement cette ambiance-là en déléguant assez, en faisant assez confiance, en écoutant en fait les salariés, s'assurer que tout ce qu'on a comme objectif en tant que manager soit compris et écouter le retour, pas juste être dans le déni comme on vient de l'entendre tout à l'heure, même si en effet je suis sponsor et que c'est moi qui donne le budget, il y a l'équipe qui s'engage et je suis obligé d'écouter en fait finalement ce qui entre en résonance avec cette équipe. Et donc là, on essaie de sortir de ce cliché de col blanc qui réfléchissent, en fait, qui prennent toutes les décisions sans la personne en effet, et les cols bleus qui réalisent ici le travail sans avoir une vision globale de pourquoi on réalise ce travail. Parce que finalement, la dissonance, elle va commencer là, si je n'ai pas toutes les infos. Et donc, la méthode agile nous permet de nous organiser avec des managements visuels pour qu'à tout moment, on sache qu'est-ce qui se passe. Tout le monde a l'info pour qu'on soit ensemble vigilants à notre état interne, à l'état interne de l'équipe, mais aussi à l'état interne de l'entreprise. Parce que l'idée, ce n'est pas de prendre soin de l'équipe au détriment du business de l'entreprise, mais partager ensemble, finalement, cette notion de priorité qu'on retrouve ici et ce qui est attendu au sens où, pour nous, en tant qu'appartenant à cette tribu, c'est quoi le succès ? C'est quoi la définition du succès pour nous ? D'accord ? Est-ce que c'est juste, en effet, l'histoire d'argent qu'on est là ? Ou est-ce que c'est il y a une autre quête un peu plus loin quoi.
Et au niveau de l'entreprise, on va retrouver la même chose. Je ne sais pas si vous voyez cet iceberg là. Ce qu'ils nous proposent, c'est de se dire, ben, finalement, c'est ceux qui font qui savent, d'accord. Mais ça, c'est trop simple de se dire ça. Effectivement, tu parlais du pourquoi du sponsor et du comment. Oui, sur le comment, les employés ils voient beaucoup de choses sur le terrain. C'est eux qui vivent, qui sont au contact de la réalité, on va dire. Donc, ils ont une très bonne vision de comment on pourrait faire les choses. Par contre, par rapport à cet iceberg-là, il faudrait rajouter la pyramide dans l'autre sens. Au niveau de la direction, c'est quoi le cap ? C'est quoi le pourquoi ? Et du coup, l'enjeu, ce n'est pas de se dire « nous, on sait, eux, ils ne savent pas » ou réciproquement « nous, on sait pourquoi il faut le faire, à eux d'exécuter ». Non, c'est de trouver, finalement, d'organiser un dialogue, une conversation qui va permettre à tout le monde de s'aligner. Donc, commencer, effectivement, la direction va donner un cap, un pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on doit avancer dans cette situation-là. Et très, très vite, on va aller consulter le terrain pour voir est-ce que ça fonctionne bien localement, ce qu'on a proposé, comment on met en œuvre, est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre dans des difficultés. Et du coup, on est tous en charge, finalement, d'occuper notre domaine d'expertise de l'entreprise. Donc, c'est dans l'organisation permanente de ce dialogue à tous les niveaux pour chercher à chaque fois l'alignement que l'organisation va pouvoir justement avoir quelque chose qui fonctionne bien à la fois dans des bonnes conditions de travail, en impliquant tout le monde et dans une direction qui est partagée par l'ensemble. On retrouve cette notion-là avec, je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore, c'est qu'est-ce que je fais quand je travaille, à quoi je contribue. Il y a celui qui empile simplement les pierres, il y a celui qui construit un mur et il y a celui qui bâtit une cathédrale. Eh bien, quand on joue aussi sur cette notion de raison d'être, quand on essaie de travailler sur le sens, il faut être très vigilant. Parce que à créer des raisons d'être qui sont très puissantes pour les personnes, on crée aussi potentiellement, et c'est pour ça qu'on est toujours sur un fil en fait, on peut créer du surengagement. Sonia, elle est surengagée dans son travail parce que ça lui plaît, elle sait à quoi elle contribue et elle a envie d'avancer. Et en même temps, c'est génial, et en même temps, ça la met en risque. Okay ? Donc il n'y a pas de solution simple, il faut trouver un équilibre. Et le déséquilibre, il peut le retrouver ici aussi. Ici, il y a Pierre qui est complètement désengagé, qui empile des pierres, mais ça lui va très bien parce que derrière, il a du temps pour s'occuper de son fiston, pour faire ce qui l'intéresse. D'accord ? Donc, essayer de dire à Pierre de penser à la cathédrale, bah, c'est potentiellement le lui faire prendre un risque dont il n'a pas envie parce que c'est pas le contrat initial qu'il a pris au départ.
Et pour que eux deux, en tant qu'humains, puissent contribuer aussi à l'équilibre vie privée, s'occuper de leurs enfants aussi, puisque ça reste important, ça fait partie de nous, en fait. C'est notre identité, finalement, quelque part.
On termine ce petit voyage avec un petit vers de poésie qui nous est venu pendant cette préparation. Quand agilité rime avec acuité, viser une exécution durable plus qu'une performance comptable, c'est quand même mieux que RPS qui rime avec détresse. Et on a du coup trois petits conseils pour vous par rapport à ça. On ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble. J'ai repris par exemple les risques que j'avais mis sur le burn-out. Et l'important, c'est de savoir que la situation elle est singulière à chacun, à chaque entreprise évidemment, mais aussi à chaque personne dans l'entreprise. Et que chacun peut se positionner personnellement sur voilà, est-ce que je suis à l'aise avec mes conditions de travail ? Et me poser les questions justement, est-ce que les changements c'est OK pour moi ? Parce que peut-être pour moi j'adore peut-être les changements, toi tu détestes peut-être, ou réciproquement. Mais en tout cas, de trouver est-ce que je suis vraiment aligné là-dessus ? Ou au contraire, est-ce que y a des problématiques et qu'il va falloir réagir.
Et s'écouter soi-même, écouter son entreprise aussi. De sens où, face au changement, comme disait Julien, moi je vais me sentir OK, alors qu'en face, il est complètement intérieurement stressé, même s'il ne le montre pas, et de se demander comment ça va. Juste là, face à ce qui nous arrive là, comment est-ce que tu vas toi, intérieurement toi ? Et c'est pas le côté bisounours de comment ça va, c'est vraiment de se sentir pour s'aligner en fait sur ce côté OK. Je devrais plus contribuer ou tu devrais plus te décharger, déléguer, d'autres situations en fait. Chaque situation est singulière.
Vous l'avez dit vous-même, le déni, c'est le principal, la principale réaction qu'on a quand on n'a pas envie d'envisager les conséquences de quelque chose. Ok, je perçois bien. Ok, Sonia, elle est surengagée, voire même j'ai trouvé des aspects positifs à la situation. Mais là encore, c'est quelque chose de personnel, de singulier. C'est pas à moi de vous dire que vous êtes dans le déni. Là, on n'est pas au bon endroit, mais c'est à essayer de développer des outils, s'écouter, essayer de voir effectivement est-ce qu'on est vraiment à l'aise avec la situation dans laquelle on est. Et puis, le dernier élément, c'est nos managers. On voit bien qu'ils sont à l'intersection et que la situation elle n'est pas évidente pour eux non plus. C'est pas pour rien s'ils sont plus à risque que les autres aussi sur le risque de burn-out. Donc professionnaliser les managers. Alors vous n'êtes pas forcément du monde de l'informatique, mais nous dans l'informatique, nos managers ce sont souvent les anciens experts d'un domaine qui ont été promus, auxquels on a dit finalement il faudra que tu arrêtes de développer, il faut que tu deviennes quelqu'un, maintenant il faut que tu deviennes manager, chef de projet, directeur, etc. Sauf que c'est pas du tout le même métier, qui sont pas forcément formés, qui se forment sur le tas, donc qui font des bêtises, des erreurs. Donc professionnaliser les managers, construire avec eux la culture qui correspond à l'entreprise, prendre le temps d'échanger, ce sont autant de choses qui vont aider finalement votre entreprise à avancer dans les meilleures conditions possibles.
Et puis, merci pour votre présence et participation. Alors, je ne sais pas si on a le temps encore, mais je pense qu'on est 11h, pile poil. Est-ce qu'on a le temps de vous demander en un mot, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Qu'avez-vous appris ? Le mot de la fin ?
C'est le système de pause.
Merci. Mot de la fin ? C'est net. Merci. Ensemble.
Ouais, ça me permet de préciser un truc, effectivement. Il y a des outils qui s'appellent le management 3.0 qui amène justement, qui traite la délégation, la motivation, etc. Et en fait, ça porte très très mal son nom parce que ce n'est pas des outils de manager, c'est des outils pour toutes les personnes. Donc, c'est amener l'information, encore une fois, le plus loin possible et impliquer jusqu'en bas, si possible.
Encore merci. C'est tout pour nous.